tous. Après la chronique littéraire avec la publication de son livre « Trop vite », elle a fait la une cette semaine de la chronique judiciaire. Condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois ferme, mais libre pour avoir poignardé à 2 reprises son compagnon, Nabila, la prévenue, a failli éclipser cette semaine un débat autrement plus important, celui de la modernisation de la justice. Une justice en voie de clochardisation, avait déclaré le nouveau garde des Sceaux à son arrivée à la chancellerie. Et après, à l'occasion des débats à l'Assemblée nationale autour du projet de loi Justice du 21e siècle, initié par Christiane Taubira, porté aujourd'hui par Jean-Jacques Urvoas, comment moderniser la justice française? Lui redonner du temps passera-t-il par une plus grande responsabilisation des justiciables? Retour ce soir sur une réforme avec mes invités. Céline Roux, tout d'abord, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes magistrate au TGI de Paris, ancienne juge aux affaires familiales. Vous avez été conseillère au cabinet de Christiane Taubira, en charge notamment de ce projet Justice du 21e siècle. Et vous êtes l'auteur au seuil de La juge de 30 ans, un petit ouvrage paru en 2014. À vos côtés, Benoît Bastard, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Sociologue, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut des sciences sociales du politique à l'École normale supérieure de Cachan. Vous avez réalisé de nombreux travaux sur l'activité des tribunaux et sur l'intervention judiciaire dans la famille. Vous êtes le co-auteur de Justice ou Précipitation, l'accélération du temps dans les tribunaux, un ouvrage à paraître aux presses universitaires de Rennes dans 4 jours, le 26 mai, si la date a été confirmée. Vous auriez pu l'appeler Trop vite, ce livre? Nabila, vous l'a volé, le titre?
Non, il y a une question dedans. C'est est-ce qu'on peut faire de la bonne justice en allant vite ou quand les délais, la question de la rapidité, de l'efficacité deviennent le maître mot des décisions.
Céline Roux, Benoît Bastard, dans un deuxième temps, autour de 18h45, nous vous quitterons pour aborder ensemble cette présidentielle autrichienne à suspense. L'extrême droite du FPÖ arrivera-t-elle à la tête de l'État? Les premiers résultats avec notre envoyé spécial à Vienne, Ludovic Piétunu, et l'analyse de Sonia Puncher-Rickmann, professeure de sciences politiques à l'Université de Salzbourg, directrice de l'Institut de recherche sur l'intégration européenne. Elle sera rejointe en dernière partie par Christophe Winder, éditorialiste autrichien. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 19h sur France Culture bien sûr, mais aussi sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux pour ajouter votre voix au débat, un seul hashtag et après.
Dimanche et après, Olivier Jespère.
Il y a 4 millions de Français qui vont dans des palais de justice par an. La justice, elle est trop complexe et elle est pas simple, elle est pas rapide. Donc mon souci, avec le peu de moyens dont je dispose, c'est de faire que la qualité du service soit à la hauteur des attentes. Et donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles j'ai proposé que l'on se dispense de l'appel au juge, pour permettre au juge de se recentrer sur ce qui est son métier. Mmh. Son métier, c'est le litige, c'est le fait de trancher des difficultés par l'application de la règle de droit.
Une justice en voie de clochardisation, ce sont les mots de Jean-Jacques Urvoas qui se félicite d'avoir obtenu par ailleurs 107 millions d'euros supplémentaires pour les juridictions. Thémis en haillons, l'allégorie de cette autorité morale qu'est la justice en prend un sacré coup. C'est un constat que vous faites sur le terrain, celui d'une institution affaiblie par le manque chronique de moyens, Benoît Bastard.
Les choses sont complexes. Je ne crois pas qu'on puisse parler de clochardisation ni de dire que la justice n'est pas rapide. Je pense que sur le terrain, il y a une très grande diversité de situations et que si la justice était lente et critiquée pour ça à une époque, aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, elle va vite. Elle va même quelquefois trop vite. Elle va très vite dans le traitement des affaires pénales. Elle va très vite dans le traitement des divorces. Donc, c'est un panorama contrasté. Il y a des endroits, bien sûr, où ça va trop lentement et où les gens ont l'impression d'attendre très longtemps une décision. Mais on ne peut pas réduire ça à une figure simple.
Céline Roux?
Oui, je suis assez d'accord. Et je crois qu'il y a des aspirations qui sont un peu contradictoires et qui se confrontent. On a envie que la justice aille très vite, que les décisions soient rendues vite, que les délais d'audiencement soient extrêmement courts, mais on a envie d'être entendu à l'audience. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a cette tension entre ces deux aspirations. Le fait de vouloir aller trop vite, ça crée aussi des temps d'audience, des temps de parole qui sont extrêmement réduits et qui non seulement frustrent le justiciable, à raison, je pense, mais aussi compliquent la prise de décision judiciaire.
Mais ce qu'on appelle justement quelque part aujourd'hui, plus le temps de prendre le temps, et là c'est une affaire de moyens, Céline Roux.
Oui, une affaire de moyens, peut-être, et peut-être aussi une affaire de recentrage du juge sur des missions plus essentielles, protection des libertés par exemple.
Ne pas prendre le temps, on décide de pas prendre le temps aussi. C'est-à-dire que on choisit d'aller vite. L'accélération, c'est une pression qui s'exerce dans la justice comme elle s'exerce dans la société tout entière. Donc, on a là le reflet de quelque chose qu'on subit ou qu'on expérimente tous les jours dans d'autres secteurs de la société.
Mais quand on a des dizaines de dossiers qui s'accumulent, parce que peut-être aussi aujourd'hui on a de plus en plus recours à la justice, est-ce qu'on a des statistiques là-dessus ?
Oui, le nombre des affaires a considérablement augmenté dans les dernières décennies. Le nombre des juges également a augmenté. Il en manque partout. Il manque des postes et quelquefois il y a personne dans les postes. Donc il manque des juges, il manque des greffiers, c'est compliqué. Mais en même temps, le temps pour prononcer un divorce, c'est beaucoup réduit dans les dernières années. Le temps avec lequel on traite les affaires pénales est très rapide, quelquefois trop rapide.
Donc, c'est notamment le cas avec les comparutions immédiates que vous avez particulièrement étudiées.
Oui, bien sûr. On sait que là, il y a des filières dans lesquelles, si on y entre, les choses vont aller très vite et peut-être sans, c'est ce que disait tout à l'heure notre interlocutrice, sans qu'il y ait le temps du débat judiciaire. C'est ça la figure essentielle aujourd'hui. À force de vouloir faire de la rapidité le critère principal, au fond, on aboutit à réduire dans tous les secteurs la discussion au sujet des affaires et la prise en considération de ce qu'il y a de singulier dans chaque situation. Or, c'est ça qu'on attend d'une bonne justice. On arrive aujourd'hui à rationaliser, à simplifier, à tout mettre dans des cadres de décision qui font que, est-ce que c'est ça la bonne justice ?
Benoît Bastard, qui fait justement de la rapidité le critère essentiel aujourd'hui ? Cette réforme s'inscrit dans un contexte d'accélération du temps judiciaire en phase, vous l'écrivez, avec nos sociétés modernes qui, elles aussi, s'accélèrent. Aujourd'hui, on attend de la justice qu'elle arbitre vite, qu'elle réponde sans délai. Et c'est justement tout le paradoxe, comme vous le rappelez, car l'usage du temps long a longtemps servi à marquer l'indépendance, la sérénité affichée et le recul du juge par rapport à l'événement. Est-ce que la justice doit, quelque pas réévaluer son rapport au temps pour devenir une justice de son temps, une justice d'aujourd'hui?
Bien sûr.
Est-ce que c'est à nous de ralentir ou est-ce que c'est à elle de faire ce travail?
Non, je pense qu'il faut avoir plus de capacité de réflexion sur ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. Quelquefois, on dit il faut que les juges puissent traiter, que certaines catégories d'affaires puissent sortir de la justice parce que, comme ça, les juges auront plus de temps pour traiter les affaires importantes. Et quand ça arrive, en fait, il n'est pas très sûr que les juges prennent plus de temps pour traiter les affaires importantes. Il y a d'autres priorités. Il faut que les juridictions tournent, qu'elles fonctionnent avec des horaires qui soient raisonnable, alors que ça existe encore qu'on finisse les audiences à 1h du matin, mais la justice s'est un peu normalisée comme service public. Donc il y a beaucoup d'enjeux à travers ça qui ne se réduisent pas à raccourcir le temps.
Mais est-ce que cette lenteur, c'est un mal très français? On s'est quand même souvent fait taper sur les doigts, la France, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a exigé depuis de nous, de nos tribunaux, qu'ils jugent dans un délai raisonnable.
Oui, mais bien sûr, dans certaines affaires, les délais ne sont pas raisonnables. Mais vous voyez que le délai moyen du divorce d'accord aujourd'hui est de moins de 3 mois, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est très rapide. Donc, il y a des affaires qui durent. Et je dirais c'est souhaitable et nécessaire que certaines affaires durent parce qu'il faut du temps. Il faut donner le temps au temps, comme on dit, pour certaines affaires civiles, pour des grands procès au pénal. Donc là-dessus, bien sûr. Il y a sans doute aussi des catégories d'affaires qui durent trop longtemps, mais la chasse au temps mort, croyez-moi, c'est un sport très développé à l'intérieur d'institutions judiciaires.
Cette contrainte de temps, de productivité, on peut presque dire ce mot aussi, la juge de 30 ans que vous êtes ou que vous étiez, Céline Roux, l'a naturellement assimilée. Est-ce que vous êtes, à vos yeux, d'une génération où prendre son temps n'est plus vraiment permis et où, du même coup, peut-être, c'est ce que vous évoquez dans votre ouvrage, le doute n'est finalement plus beaucoup autorisé? Parce que le temps, c'est aussi le temps du doute et de la réflexion.
Alors, il est certain que j'appartiens à cette génération où la justice n'a plus le temps. J'ai pris mon premier poste en 2009 dans un service d'affaires familiales. Et c'était déjà un contentieux qu'on appelle contentieux de masse. C'est-à-dire qu'on avait à l'audience très peu de temps pour entendre les gens, que les gens eux-mêmes, avant d'être convoqués à l'audience, avaient attendu des mois pour arriver devant le juge et que la décision était rendue plusieurs semaines après l'audience. Et qu'il fallait constamment aller vite, avec un sentiment chez les justiciables, un sentiment de très grande urgence. Et ce qu'on peut comprendre en matière familiale, il y a urgence avant les vacances scolaires qu'un juge dise où l'enfant ira au mois de juillet, où il ira au mois d'août, dans un climat de très grande tension entre les parents. On peut le comprendre que chaque personne ait le sentiment que son affaire est extrêmement urgente et que le juge doit l'examiner rapidement. Et c'est dans ce climat-là, oui, que j'ai pris mes fonctions.
Et du coup,
néanmoins,
je le voyais arriver.
Néanmoins, ma génération de magistrats aussi est celle qui a pris ses fonctions après Outreau. Si bien que c'est drôle que vous parliez du doute aujourd'hui, parce que c'était précisément le sujet du concours d'entrée de mon année en culture générale, le doute. On nous a beaucoup reproché aux jeunes magistrats de pas assez douter, de pas assez remettre en cause des éventuels principes, des éventuelles théories préconçues. Je crois pas que ce soit le cas. Le temps du délibéré, alors si le temps d'audience est parfois un peu raccourci, dans certaines affaires qui le méritent, par exemple les consentements mutuels, dans les affaires un peu plus complexes, quand il s'agit de décider de la résidence d'un enfant, on le prend, le temps, quitte à finir un peu plus tard l'audience. Et le délibéré prend du temps aussi, et ça, on l'a pas encore, ce temps-là, on ne l'a pas encore sacrifié, heureusement.
Efficacité, lisibilité, rapidité, accessibilité. La réforme, selon le garde des Sceaux au micro de France Inter cette semaine, tient en quatre mots. Céline Roux, vous qui étiez donc au cabinet de Christiane Taubira avant l'arrivée de Jean-Jacques Urvoas, à l'origine, hein, Christiane Taubira, de ce projet justice du 21e siècle, quelle est la genèse de ce projet? Comment a-t-il été pensé par celle qui l'a initié?
Vous avez rappelé les principes qui ont présidé à l'adoption de ce projet, à sa conception. Il ne s'agit pas simplement d'accélérer le temps de la justice. Il s'agit de la rendre plus proche du justiciable, plus simple, plus lisible, plus accessible. Et c'est vraiment tout ça qui a gouverné. Si bien que ce projet a consisté à équilibrer les choses, certes la rendre plus rapide en confiant à d'autres institutions ou d'autres administrations le soin de traiter certaines affaires, les Pax Omeri par exemple, mais dans l'objectif de conserver du temps judiciaire aux affaires plus importantes, aux intérêts plus proprement judiciaires.
Ça, c'était déjà la philosophie au départ. Et il y avait deux mots qu'on retrouvait beaucoup au début, médiation et conciliation. Mm-hmm. C'était les deux valeurs sûres, hein, de l'avant-projet. Est-ce qu'ils se retrouvent dans le texte en discussion aujourd'hui à l'Assemblée?
Oui, il y a des dispositions qui concernent la médiation et la conciliation. Le projet de loi a été conçu après la remise à Christiane Taubira d'un rapport conjoint de l'Inspection générale des services judiciaires et du Secrétariat général de la modernisation de l'action publique. Ces deux institutions ayant fait un travail très pointu sur ce qu'on pouvait faire pour moderniser la médiation, la rendre plus lisible, plus accessible, la généraliser et l'harmoniser. C'est un paysage qui est aujourd'hui très éclaté, très disparate. L'objectif, c'était quand même de permettre aux justiciables de trouver des accords, et notamment dans les affaires familiales ou dans les petites affaires simples qui concernent l'instance, le juge d'instance. Partant du principe que les accords sont peut-être plus protecteurs des intérêts en présence, peut-être plus durables aussi, qu'on revient moins devant le juge quand on a réussi à trouver un accord.
Plus de médiation et plus de conciliateurs, ça veut dire qu'on les a, les moyens humains, pour favoriser cette phase préalable et peut-être définitive si un accord est trouvé rapidement entre
les parties.
Les
moyens humains, ils existent parce qu'ils sont sont extérieurs à l'institution judiciaire. C'est des associations, c'est des professions, les avocats, c'est des indépendants. Donc ces moyens-là, ils existent.
La question, mais les conciliateurs, ce serait qui, par exemple?
Alors les conciliateurs, ils existent aussi, hein, c'est une profession qui est plus en lien avec le ministère de la Justice que celle des médiateurs. Elle est régulée par le ministère de la Justice.
Donc ils font un travail bénévole, formés à cet
oui
effet.
Tout à fait, formés, un travail bénévole important sur le terrain et notamment devant le juge d'instance.
Donc on a les capacités, les moyens humains, effectivement, de favoriser cette médiation.
Oui, la question c'est plus de rationaliser le recours à la médiation, de le réguler et d'harmoniser un peu le paysage de la médiation et de la conciliation.
Accélération du temps pour essayer de désengorger les tribunaux. Benoît Bastard, comment faire? Quelle traduction concrète pour essayer, là encore, de soulager les magistrats d'une certaine masse de travail, pour réduire aussi les délais, à l'intention cette fois plutôt des justiciables? On l'a entendu, un des premiers volets pour essayer d'y parvenir, c'est la déjudiciarisation d'une partie du contentieux. C'est le cas notamment pour le divorce. Au pénal, comment on fait?
Au pénal, c'est une chose déjà ancienne d'accélérer le contentieux du divorce. Le contentieux pénal, le traitement des affaires pénales.
Envoyer nos ex-divorcés au pénal maintenant, bravo. Hein.
Au pénal, disons que depuis les années 2000 en tout cas, il y a l'idée de traiter rapidement les affaires. Un des dispositifs les plus évidents, c'est le traitement en temps réel des affaires pénales, c'est-à-dire que aujourd'hui dans les parquets, c'est au téléphone que les magistrats décident sur la suite à donner aux affaires, et que ce dispositif-là s'est accompagné de toutes sortes de réformes du droit qui ont créer des dispositifs pour traiter les affaires, pour donner une solution à chaque affaire. Donc, que ce soit la comparution immédiate dont vous parliez, mais aussi les convocations par officier de police judiciaire, la CRPC, qui est l'arrangement à la française, les compositions pénales. Il existe toutes sortes de formules qui permettent aux parquetiers de lancer les affaires dans des directions dans lesquelles ils savent qu'elles auront une suite appropriée et rapide. Donc ça, c'est l'accélération du traitement pénal, dans lequel on exerce une pression sur toutes les juridictions en aval, hein, les juridictions correctionnelles. Aujourd'hui, elle est sous la pression de ce ministère public qui est devenu le moteur de l'accélération dans le champ pénal.
Alors, en vrac, dans ce projet de réforme justice du XXIe siècle, la réforme applique ce principe de simplification à certains délits routiers, à la procédure de surendettement, au changement de prénom. La réforme facilitera aussi les actions de groupe. Et puis, il y a cette mesure qui est particulièrement ciblée ou polémique aujourd'hui, celle du divorce par consentement mutuel. Un mariage sur deux finit aujourd'hui en divorce. 130 000 séparations sont prononcées chaque année, dont 54%, c'est-à-dire plus de la moitié par consentement mutuel. Un sondage Odoxa, ce matin, paru dans Le Parisien, nous dit que 2/3 des personnes interrogées se passeraient bien du juge et soutiennent cette réforme. Elle a plutôt la cote. Divorcer devant un notaire plutôt qu'un juge, c'est un gain de temps, assurément. Pour vous, Benoît Bastard, après tout, vous dites pourquoi pas, si les futurs ex-époux sont d'accord sur tout?
Oui, bien sûr. La question, c'est celle du contrôle, hein, qui est centrale dans cette affaire-là. Le contrôle qu'exercent les juridictions sur les situations de divorce. Or, le contrôle sur ces situations-là, les juges aux affaires familiales ne l'exercent pas et ne souhaitent pas l'exercer. Quand les gens sont d'accord, ils ne posent pas de questions, les audiences sont très rapides. Hein, donc, de ce point de vue-là, pour moi, on ne peut pas penser qu'on va perdre beaucoup en termes de contrôle. Même mes collègues sociologues ont observé plusieurs centaines d'affaires et dans un cas, sur 365 ou quelque chose comme ça, le juge a dit quelque chose à propos de l'accord qui lui était présenté. Donc, c'est extrêmement rare.
Oui, c'est le fameux 99,9% cité le chiffre par Jean-Jacques Urvoas pour dire qu'effectivement, généralement, ces accords sont homologués sans trop de discussion.
De façon générale, on sait que une très grande partie des décisions, par exemple, relatives à la prise en charge des enfants, sont prises d'accord entre les personnes. La partie réellement conflictuelle est plutôt résiduelle. Donc dans ces situations, en plus de consentement mutuel, tout est d'accord dès le départ. Bon, c'est pas ce qui s'est passé avant, évidemment. Ils sont parvenus à un accord et le juge l'homologue. C'est pas le juge qui décide. Le juge ne décide rien dans ces affaires. Tout est décidé ailleurs, y compris avec l'aide d'un avocat, évidemment. Donc, ça me paraît une évidence qu'on peut passer à ça. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus et les gens qui ne sont pas d'accord, ce sont soit des autorités morales, des gens qui craignent pour la famille, soit des professionnels, les juges ou les avocats.
Justement, vous les entendez? Les dents grincer?
Oui, les avocats.
Vous les entendez, ces dents grincer? On va les écouter.
Non, c'est bien de vouloir simplifier, vous savez, mais il y a des événements dans la vie qu'on ne peut pas bâcler. Le divorce, on ne divorce pas tous les jours, et le juge est un garde-fou qui est indispensable. Il y a des divorces qui ne se passent pas forcément très bien, même s'ils sont divorces amiables. Amiable ne veut pas dire qu'on va chez le juge main dans la main et que tout se passe bien. Il y a des divorces à l'amiable qui sont compliqués, qu'il faut négocier, qu'il faut vérifier, et le juge est là pour vérifier le consentement.
nous pensons que le passage par le juge reste indispensable, indispensable à cause de la fragilité de peut-être des enfants et qui à qui on demandera peut-être leur avis, mais comment pourront-ils le donner et ne seront-ils pas influencés par leurs parents ?
Le juge, il est le garant de l'équilibre. Nous, avocats, nous n'avons pas la possibilité, si vous voulez, de dire à nos... Enfin, nous pouvons le dire à nos clients que telle mesure ne nous paraît pas correcte au regard de l'équilibre, mais c'est le client qui, en dernier ressort, définit sa position. Or, il peut y avoir un déséquilibre entre les clients, entre les justiciables, entre une femme et entre un homme.
Le projet de loi actuel prévoit qu'un enfant peut demander à être entendu par exception par le juge. Vous voyez le tableau, un enfant de 4 ans, le petit Kevin qui va dire à table « Papa, maman, vous divorcez, mais je lève la main parce que moi je suis pas d'accord, je voudrais qu'on aille chez le juge. » C'est pas raisonnable.
Voilà, des avocats comme Maître Toledano, Maître Mécari, un représentant de l'Union des associations familiales, ou encore Maître Sicard, hein, qu'on entendait sur la fin, le bâtonnier. Certains magistrats aussi ont élevé leur voix sur ce débat. Ils n'y trouvent pas leur compte. Et si monsieur avait fait pression sur madame et l'intérêt de l'enfant, on leur répond, mais il y aura deux avocats pour protéger les intérêts de tous. Vous en pensez quoi de cette réforme, Céline Roux? Est-ce que vous y êtes plutôt favorable?
Alors, très concrètement, pour rebondir sur ce que disait Benoît Bastard, les audiences de divorce par consentement mutuel, c'était 5 dossiers en une heure. Donc, c'est un temps d'audience qui est extrêmement rapide. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, l'immense majorité des cas, on homologue.
En fait.
On homologue, il n'y a pas de difficulté particulière. L'avocat a déjà fait un travail qui respecte l'accord des parties et qui garantit le consentement des deux parties. Néanmoins, et je m'interrogeais en venant sur le nombre de fois où j'avais refusé d'homologuer. Je crois que sur 3 ans d'exercice des fonctions de juge aux affaires familiales, j'ai dû refuser 5 fois une homologation pour des motifs de prestations compensatoires d'un montant manifestement insuffisant, des motifs de consentement un peu arrachés à l'une des parties. Parfois une épouse socialement, économiquement assez fragilisée, faut quand même dire que c'est à ce public-là qu'on s'adresse, avait jamais rencontré l'avocat et l'époux lui avait fait signer une convention qu'il avait faite lui avec l'avocat sur le coin d'une table et c'était la première fois qu'elle voyait son avocat le jour de l'audience. Donc là il y a eu un refus d'homologation et après on revoit les personnes avec un nouveau projet de convention. Donc c'est vrai que c'est extrêmement rare et que la protection, le contrôle, il s'exerce assez rarement et que le rôle du juge il est assez faible, mais néanmoins, il existe. Ce projet, je pense qu'il répond à des aspirations sociétales, une aspiration qui consiste à assouplir la manière dont on se quitte, assouplir la désunion et voir reculer un peu l'ordre public familial, l'ordre public de protection. Il faut quand même penser que c'est toucher à la manière dont on divorce, toucher à la manière dont on se désunit d'une personne, c'est toucher au mariage, c'est toucher à une institution. Il y a un souffle, une aspiration à une certaine forme de libéralisation à laquelle moi je ne suis pas opposée. Et en tant que JAF, j'avais parfois un certain malaise à devoir statuer en matière de divorce pour faute. Parce que j'allais m'immiscer dans un vie, ordre public un peu moral, un peu moralisateur. Et ça, je pense que les juges d'affaires familiales le ressentent. Il y a parfois une certaine forme de malaise. Donc, confier le divorce quand il est par consentement mutuel, sans difficulté, à des professions extérieures et réglementées, je peux le comprendre, je peux l'entendre et j'y suis pas opposée par principe. Néanmoins, il faut quand même se dire qu'il y a un coût à la charge du justiciable, même si les justiciables peuvent avoir l'aide juridictionnelle dans le cadre de ce futur divorce par consentement mutuel par avocat, il faut bien se dire que si les deux personnes ont l'aide juridictionnelle, je suis pas sûre que ça améliore vraiment les délais. Deux avocats à l'aide juridictionnelle et un notaire qui sera rétribué à hauteur de 50 euros, ils vont pas nécessairement faire prioriser cette affaire sur les autres et je suis pas sûre qu'ils aient des délais inférieurs à, je crois que c'est 3 à 7 mois, hein, le temps d'audiencement moyen, d'après ce que disait Jean-Jacques Urvoas, d'un divorce par consentement mutuel. Donc je ne suis pas sûre vraiment que ça accélère et il y aura un coût à la charge des justiciables.
Moi, Benoît Bastard.
Oui, on dit qu'on simplifie et on rajoute un intervenant. Quel sens ça a ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour ces divorces-là, pas pour la totalité des divorces, pour ces divorces-là, ce qu'on peut appeler privatisation, c'est-à-dire on le fait soi-même, est déjà là. Donc passer à ça, ça paraît très simple. Pourquoi est-ce qu'on dit maintenant il faudra que ce soit contresigné par deux avocats ? Là, Je comprends pas.
C'est le deuxième avocat, l'intervenant rajouté pour vous?
Mais bien sûr. D'accord. Au lieu qu'on ait un juge. Aujourd'hui, les gens peuvent organiser leur divorce seuls, et puis ils vont voir un avocat, ou ils l'organisent avec un avocat, et ils vont chez le juge. Deux intervenants. Dans le futur, pour divorcer. Maintenant, il va falloir avoir deux avocats et un juge. C'est pas de la simplification. Deux avocats et un notaire, pardon. Et c'est pas de la simplification, c'est de la complication. La logique, c'est qu'on fait confiance aux gens. C'est ça qui se passe dans le consentement mutuel. On dit, ils sont capables de faire, on a affaire à des gens intelligents. Il n'y a pas besoin que des juges voient des centaines de milliers de familles par an pour aller voir comment elles fonctionnent dans le détail. C'est un contrôle incroyable. Et donc, on leur fait confiance, et s'ils savent le faire, ils le font. Et à ce moment-là, on n'avait pas besoin de prévoir deux avocats. On a prévu deux avocats parce que peut-être c'est ça qui va faire que cette réforme passe.
Bon alors, le divorce sans juge, pour l'instant, c'est voté, c'était jeudi. Et autre point important de cette réforme, c'est concerne cette fois la justice des mineurs, avec la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, des tribunaux qui avaient été créés en 2011 sous Nicolas Sarkozy pour juger des délits commis par des mineurs récidivistes de plus de 16 ans. Ils n'auraient pas fait leurs preuves, ces tribunaux. La justice des mineurs, c'était le gros dossier de Christiane Taubira, qui n'a pu aboutir avant son départ, Benoît Bastard. Jean-Jacques Urvoas n'y est pas opposé. Mais est-ce que le calendrier politique permettra encore d'envisager une vraie réforme de l'ordonnance de 45 avant la fin du quinquennat? Il va falloir se contenter de la suppression de ces tribunaux.
Je ne suis pas un spécialiste du calendrier politique.
Non, mais ceci vous dit, de cette la mesure, des mineurs.
Ceci dit, cette mesure, c'est important parce que en fait, c'est d'où elle vient qui est important. C'est une mesure qui a été prise à un moment où on voulait tuer le juge des enfants, où on voulait faire disparaître cette juridiction qui a quelque chose de particulier en France, qui n'a pas ailleurs partout, qui elle est à la fois civile et pénale. Elle est protectrice, elle s'occupe des enfants, le juge des enfants s'occupe des enfants en danger, et elle est en même temps pénale. Et on a voulu faire disparaître cette caractéristique, et on a limité la spécificité du juge des enfants, et on a voulu aussi, avec ce tribunal spécial, le mettre à l'écart. Donc, c'était logique de revenir.
Ça, c'était avant 2012. Depuis 2012, il y avait ce projet de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, au contraire, rééquilibrer justement cet équilibre entre la sanction, la répression d'un côté et l'éducation de l'autre, pour redonner le primat ou la primauté à l'éducation. Oui, un thème que vous développiez déjà en 2010, un ouvrage, L'avenir du juge des enfants. Éduquer ou punir. Là, du coup, on n'a pas opéré ce rééquilibrage, sauf par la suppression des tribunaux.
Oui. Mais je pense que les juges des enfants, autant que je les vois, ce sont des magistrats. Ils considèrent que le droit, que l'application du droit, c'est leur travail principal. Et que dans l'application du droit, cela inclut la sanction, évidemment, et qu'ils usent de la sanction autant qu'il le faut, mais que pour eux, la sanction doit prendre place dans un cadre éducatif. C'est à ça qu'ils tiennent, et c'est encore à ça qu'on est, heureusement, aujourd'hui, dans le cadre des tribunaux pour enfants.
Céline Roux, est-ce que c'est la grande réforme que vous attendiez en tant que magistrate ?
Je pense que c'est une réforme qui est utile et qui est attendue. Je pense qu'il en faudra
peut-être
d'autres.
Peut-être pas pour vous, mais par les justiciables, il en faudra d'autres, d'accord. Il faudra remettre une couche au millefeuille. Décevante
Non, il y a des apports très importants. Je pense par exemple à l'action de groupe, mais qui est un autre sujet, mais qui est quand même dans ce projet de loi. Néanmoins, ça prend du temps de rénover, de moderniser une institution comme la justice. On revient à cette question du temps, et je pense que c'est un très bon projet de loi qui est très utile, mais que néanmoins il appellera d'autres réformes et d'autres manières de travailler. D'autres changements de culture aussi, qui passent pas nécessairement que par la réforme législative.
C'est la première étape, nous dit Céline Roux, peut-être d'une modernisation toujours en marche ou à venir de la justice, Benoît Bastard. Vers quoi va-t-on ? Est-ce que le concept ou l'idée de justice prédictive vous semble de plus en plus concret ?
Si on remet les choses en perspective dans le long terme, tout ce qui concerne la gestion, l'informatique, etc., était très mal vu dans la justice. C'était pas ce qui semblait approprié, parce que, comme vous l'avez dit en commençant, ce qui comptait, c'était le juge, son éthique professionnelle, etc. Tout ça a changé. Maintenant, quelquefois, on a l'impression que la gestion guide la transformation de la justice. Et quand la gestion guide la transformation de la justice, ce n'est pas une bonne chose. Il faut la gestion et la réflexion sur les finalités. Dans ce qui va venir maintenant, il y a... on voit que c'est en marche, davantage de numérique, la dématérialisation des échanges entre les juridictions et les barreaux, qui fonctionne maintenant, alors avec des adaptations, des complications, des retards, mais c'est ça qui va donner son sens, je crois, aux réformes suivantes, et il y aura un grand intérêt à voir quelle partie on pourra en prendre, mais avec une finalité judiciaire, pas seulement avec une finalité gestionnaire.
Il va nous falloir aussi tous ensemble déterminer où termine l'accélération et où commence la précipitation. Pour cela, je renvoie les auditeurs vers votre ouvrage qui sortira donc dans 4 jours. Justice ou précipitation, l'accélération du temps dans les tribunaux, apparaître aux presses universitaires de Rennes. Restez avec nous, France Culture, il est 18h45.
France Culture, dimanche et après. Olivia Jesper.
À chaque campagne, c'est la même chose. On nous accuse d'être des fascistes. Il faut apprendre de sa propre histoire, mais il ne faut pas en être prisonnier.
C'est super, c'est la réponse des Autrichiens à la façon dont on les traite.
Je ne veux pas être xénophobe, mais quand on voit ce qui se passe en ce moment, ça ne marche pas.
C'est bien quand les choses changent.
Je pense qu'il est possible de convaincre encore plus de monde de voter pour moi au second tour. Je serai le président de tous les Autrichiens, mais cela ne signifie pas que je compte abandonner mes valeurs.
Ingénieur de 45 ans, vice-président du Parlement depuis 3 ans, arrivé en tête au premier tour de la présidentielle le mois dernier. Lui, c'est Norbert Hofer, candidat du FPÖ, comme Freiheitliche Partei Österreich, parti nationaliste autrichien, favori de ce second tour. Il pourrait être ce soir ou demain le tombeur de l'écologiste Alexander Van der Bellen, le fossoyeur de la grande coalition social-démocrate. Ce Norbert Hofer, grande coalition entre le SPÖ et les conservateurs de l'EVP, et demain peut-être le nouveau président de l'Autriche. Quoique, rien n'est moins sûr. À Vienne, avec nous, Ludovic Piétenu, envoyé spécial de la rédaction de France Culture. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qui pour occuper le fauteuil présidentiel? Est-ce qu'on a déjà des premières tendances, voire même des premiers résultats?
La situation de ce soir est parfaitement incroyable, Olivia, puisqu'on peut le dire à 7h06, 18h47, l'Autriche est coupée en deux. Les deux hommes sont donnés strictement à 50-50. Certains sondages prédisent une petite avance de quelques dixièmes de points pour Norbert Hofer, 50,2, 49,8. Vous voyez, ce qui se passe ce soir en Autriche est absolument improbable. Il est d'ailleurs une scène encore improbable qui se déroule à la télévision publique à l'heure où je vous parle. Les deux hommes sont côte à côte, interviewés par le journaliste, et les deux hommes commentent ce qui est en train de se passer, donc c'est-à-dire cette projection à 50-50.
Qu'est-ce qui a marqué cette journée? Une très forte mobilisation?
Une très forte mobilisation est supérieure à celle du premier tour. Donc il y a un mois, on a vu dans les bureaux de vote, que ce soit dans des quartiers populaires de Vienne, dans des quartiers plus favorisés, bobos, verts, écolos, une participation, une forte participation, notamment ce matin. C'était le cas surtout ce matin. Il faut dire que la journée à Vienne et dans tout le pays a été particulièrement ensoleillée et douce. Et donc l'après-midi a été beaucoup plus calme dans les bureaux de vote. Et puis les bureaux de vote fermés tôt à 17h.
Merci Ludovic Piétenu, vous restez avec nous. On reste en Autriche, on part du côté de Salzbourg. Avec nous par téléphone, Sonia Puncher-Rickmann, professeure de sciences politiques à l'Université de Salzbourg et directrice de l'Institut de recherche sur l'intégration européenne. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Alors, des résultats au coude à coude. Et ce qu'on sait aujourd'hui à travers cette mobilisation qui a quand même été assez importante, on peut déjà imaginer si les Autrichiens ont ce qu'ils ont voulu peut-être manifester dans les urnes en s'y rendant massivement entre le vote d'adhésion ou le vote de contestation. Quelle est votre première analyse de ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer aujourd'hui?
Alors, c'est un moment vraiment très palpitant et un tableau très complexe. On a deux candidats à 50%. Personne, je crois, n'a expecté ce résultat, et on aura une sûreté seulement demain, parce que C'est une pratique autrichienne d'avoir un vote par correspondance et ça concerne 900 000 personnes, les votes desquels on aura compté seulement demain.
Mmh. Alors, donc pas de projection
demain,
possible.
On ne sait rien.
On ne sait rien. Oui, pas de projection possible. Et effectivement, il va falloir passer la nuit à dépouiller. Cette semaine, voilà. dans Le Monde, le quotidien français, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a mis en garde les Autrichiens avec l'extrême droite. Ni débat, ni dialogue possible. Si jamais le FPO prenait la tête de l'État, comment réagirait Bruxelles d'après vous, vous qui êtes aussi une spécialiste de l'Union européenne? Est-ce que Bruxelles jouerait plutôt aujourd'hui la carte de l'acceptation, voire de la normalisation, ou celle des sanctions, comme elle l'avait fait dans les années 2000 avec Jörg Haider?
Alors, je crois que le temps des sanctions est passé. On a déjà vu que on a pensé à des sanctions envers Berlusconi, envers Kaczynski en Pologne, et on n'a rien fait. Ou Orban en Hongrie. Alors, je crois qu'on serait très... on aura deuxième pensée avant de entreprendre les sanctions. Quand même, ce sera un moment très difficile pour l'Europe parce que ce sera la première fois qu'un président d'une république sera de l'extrême gauche, de l'extrême droite, pardonnez-moi. Mmh. Et ça sera certainement un signal pour le reste des partis extrême droite dans l'Europe. Certainement un signal aussi pour Marine Le Pen en France, Wilders en Hollande, etc., etc. Peut-être aussi un signal pour le Brexit, je ne sais pas. Hein. Mais je ne suis pas sûre que ça portera des sanctions des Européens. Aussi, il faudra attendre ce que ce nouveau président, si M. Hofer sera le prochain président, fait dans sa politique, quel ton, quel discours il lancerait. Alors, c'est un peu tôt pour spéculer sur des sanctions.
Oui, parce qu'il y a peut-être pas un double discours, mais en tout cas deux discours possibles, à voir comment ils se transformeraient dans la réalité si le FPO arrivait à la tête
exactement,
de l'État.
Hein,
entre à la fois ces habits neufs de l'extrême droite autrichienne, mais plus globalement européenne, et puis ces vieilles matrices idéologiques qui sont aujourd'hui encore incarnées, selon les observateurs autrichiens, par Heinz Christian Strache, si je prononce bien, le chef de l'extrême droite autrichienne.
Mm-hmm.
Comment va l'Autriche au-delà de ça, professeur Sonia Puncher? Comment va l'Autriche et qu'est-ce qui se traduit peut-être justement des mentalités de la population aujourd'hui dans les urnes?
Oui. Alors, avant tout, je dirais que c'est un peu exagéré de qualifier tous ces électeurs de M. Hofer comme des vieux nazis. C'est pas le cas. Ce qu'on voit maintenant est que on a eu un débat extrêmement polarisé sur l'accueil des réfugiés et la fermeture des frontières. Il y a une situation de chômage aggravée, aussi on a des phénomènes de précariat, ce qui est assez nouveau pour l'Autriche qui fait partie du nœud plus riche de l'Europe. On a l'impression que surtout les jeunes ont un manque de perspective, soit que ça est réel ou imaginaire, on ne sait pas, mais il y a une grande crainte pour ce qui concerne le futur. On voit aussi une différence entre centre urbain et la campagne, entre les grandes villes, dans les arrondissements bourgeois, petits bourgeois et prolétaires. Mais d'autre part, ce qui est aussi intéressant, voyant les résultats de ce second tour, c'est que il y a aussi des régions en Autriche qui ont voté pour le candidat écolo, M. Van der Bellen, et d'autres pour M. Hofer. Alors aussi, cette différence entre centre urbain et la campagne n'est pas complètement juste si on prend les résultats qu'on a maintenant.
Merci beaucoup Sonia Puncher-Rickman d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. On imagine que vous êtes très sollicitée pour éclairer pas simplement les auditeurs de France Culture ni les auditeurs français, mais aussi le public autrichien sur le résultat assez les premières tendances assez étonnantes de ce scrutin présidentiel en Autriche. On rappelle donc que les deux candidats à la présidentielle autrichienne, Norbert Hofer pour l'extrême droite du FPÖ et l'écologiste Alexander Van der Bellen, sont au coude à coude de ce dimanche soir, selon les instituts de sondage, sachant que les bureaux de vote sont maintenant fermés en Autriche. On part rejoindre un deuxième analyste, interlocuteur, l'éditorialiste Christophe Winder. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste, journaliste dans un journal plutôt classé au centre-gauche, libéral, Der Standard. Dimanche et après, Christophe Winder, une victoire du FPÖ peut-elle, pourrait-elle servir d'électrochoc pour les partis traditionnels, comme l'a évoqué un député autrichien, le député libéral Christophe Wawrick, au micro de France Culture.
La première chose que je voudrais bien dire, c'est quelle journée. Alors, c'est vraiment des élections qu'on va pas oublier si vite. Et à mon avis, à vrai dire, les résultats qu'on a, ou pour être précis, qu'on n'a pas jusqu'au moment, sont quand même une surprise, parce qu'il y avait pas mal de gens qui ont dit que Monsieur Hofer va l'emporter sans problème cette fois-ci. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Monsieur Hofer a très bien su jouer ou exploiter les peurs qui sont liées au grand sujet de la migration et des réfugiés. Et de toute façon, il s'est montré comme un candidat redoutable. Qui a évité des pièges. Par exemple, il n'a jamais utilisé une langue radicale. Et comme ça, le fait que les deux candidats sont coude à coude est, à mon avis, un succès pour Monsieur Van der Bellen.
En tout cas, après devant de pouvoir, il y a quand même deux perdants, et ça, c'est ce que l'on sait. Gauche-droite, c'est cette grande coalition. Est-ce qu'elle a fini, pour vous, par tuer les clivages partisans, remplacés quelque part par un centre mou et une bataille aux extrêmes?
Je ne dirais pas que Monsieur Van der Bellen est un candidat extrême. En ce qui concerne Monsieur Hofer, j'en suis pas tellement sûr. Il a sorti quelques idées quand même qui sont plutôt très très à droite. Mais il y a une chose qui est bien claire, que les systèmes politiques tels qu'on l'a connu pendant 50 ou 60 ans, c'est mort et il faut s'adapter à des données complètement nouveaux.
Merci beaucoup Christophe Winder. Le 9 mai dernier, le chancelier social-démocrate Werner Faymann a dû démissionner. Il a été remplacé par Christian Kern, investi en début de semaine. On verra quels sont donc demain matin les résultats définitifs de cette élection présidentielle en Autriche. Il y a fort à croire que ce soit le candidat soutenu par les écologistes ou le candidat du FPÖ qui remporte la présidence donc autrichienne, que ce nouveau président ou son arrivée aura une incidence sur le projet du gouvernement de ce nouveau chancelier social-démocrate. À suivre donc demain dans les journaux de France Culture. Avant de se quitter, un dernier au revoir au Festival de Cannes, dont la cérémonie de clôture, je vous le rappelle, débutera dans un quart d'heure avec un palmarès que vous pourrez retrouver sur notre antenne au fil de l'émission de Soft Power animée par Frédéric Martel. Comme aucun prix ne viendra récompenser, vous le savez, la meilleure bande originale parmi les films en compétition officielle, il fallait l'inventer avec le Cannes Soundtrack. Un jury de journalistes s'y est attelé en marge du palmarès officiel. Et cette année, c'est le compositeur Cliff Martinez qui a été consacré pour la bande originale de The Neon Demon. On vient d'en écouter un extrait. L'album sera dans les bacs le 3, le film en salle le 8 juin. Au micro ce soir, il y avait Benoît Bastard et Céline Roux, que je remercie chaleureusement. À la réalisation, il y avait Olivier Guérin avec Jean-Frédérics. À la préparation et sur le fil des réseaux sociaux, Mathias Mégy et Mathilde Wachmann. L'émission, elle est disponible au téléchargement pendant plus d'un an sur franceculture.fr. Je vous indique rapidement deux rendez-vous à ne pas manquer sur l'antenne la semaine prochaine. Mardi, 9h, 10h, François Hollande sera l'invité d'Emmanuel Laurentin dans la fabrique de l'histoire à l'occasion des commémorations du centenaire de la bataille de Verdun. Et puis demain, toute la journée, à un an de l'élection présidentielle, retrouver le désir de politique. Voilà ce que vont tenter de faire vos émissions quotidiennes. Elles suivront ce fil. À dimanche prochain. Très bonne soirée à tous.